Merci d'écouter RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel. Le journal avec Marion Kazanov.
La guerre en Ukraine au cœur des discussions à Washington. Hier, le président américain a reçu le premier ministre britannique. Ils ont discuté de leur seul point de discorde sur le sujet, à savoir autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles livrés par les alliés pour toucher le territoire russe. Les dirigeants africains continuent de saluer cette position des États-Unis favorable pour accorder 2 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 pays du continent. Dans ce journal également, ce débat au Japon au sein du Parti conservateur pour nommer un nouveau chef et donc un futur nouveau Premier ministre. Et puis en France, le clap de fin, le vrai cette fois, les athlètes et para-athlètes français défilent cet après-midi sur les Champs-Élysées. Ils seront acclamés une dernière fois par leur public. Et c'est une demande majeure de l'Ukraine et elle reste pour l'instant sans réponse. Celle des missiles longue portée livrés par ses alliés, l'Ukraine aimerait pouvoir les utiliser pour frapper la Russie en profondeur. Mais pour l'instant, les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Le sujet a été abordé hier entre le président américain et Keir Starmer à Washington. Joe Biden recevait le premier ministre britannique à la Maison-Blanche et ce sujet donc reste l'un des rares points de discorde entre les deux alliés. Correspondance de David Thompson.
Le sujet était au cœur de sa visite à la Maison-Blanche, mais le Premier ministre britannique n'est pas parvenu à convaincre Joe Biden d'accorder immédiatement son feu vert à des frappes ukrainiennes en territoire russe avec des missiles français ou britanniques. Au sortir de son entrevue, Keir Starmer laisse néanmoins entendre qu'il s'attend à ce qu'une décision soit prise dans les semaines ou les mois à venir. Pour l'heure à Washington, c'est encore la prudence qui domine. Joe Biden veut éviter tout risque d'escalade avec le Kremlin après la mise en garde de Vladimir Poutine qui affirmait jeudi qu'une telle étape signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Des menaces prises très au sérieux par les États-Unis, assure John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, juste avant la rencontre entre Joe Biden et Keir Starmer. Poutine, dit-il, s'est déjà montré capable d'agression et d'escalade dans le passé. Et John Kirby d'ajouter que la position de Joe Biden au sujet des frappes en territoire russe avec des missiles occidentaux n'a pas changé. David Thompson, Miami RFI.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué ses alliés hier. Il estime qu'ils ont peur d'accéder à cette demande. Il a aussi fait une autre annonce. 49 Ukrainiens faits prisonniers par la Russie ont été libérés, parmi eux des combattants du régiment Azov. Il s'était illustré dans la défense de l'usine Azovstal à Mariupol. Une libération dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais on ignore combien ont été libérés côté russe. À Gaza, l'armée israélienne promet d'employer tous les moyens pour ramener les otages. Déclaration de son porte-parole devant un groupe de journalistes à Rafah, ville de l'enclave. Israël continue de bombarder Gaza. Son armée mène aussi régulièrement des raids en Cisjordanie occupée. L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, annonce que l'un de ses employés a été tué lors d'un de ces raids. L'armée israélienne se défend et affirme que ce dernier a été abattu cette semaine après avoir lancé des engins explosifs. Un soutien de poids pour l'Afrique à l'ONU. Vendredi, les États-Unis se sont dit favorables à l'ouverture de 2 sièges permanents réservés à des pays du continent au Conseil de sécurité. L'Afrique ne dispose actuellement que de 3 sièges non permanents. Cela fait près de 30 ans que les pays africains demandent une représentation équitable au sein des organes onusiens. Le ministre tchadien des Affaires étrangères voit d'un bon œil la position américaine, mais la réaction d'Abderrahmane Koulamallah reste mitigée puisque les États-Unis ne veulent pas élargir le droit de veto.
On nous fait entrer sans nous faire vraiment entrer, en nous déniant le droit d'être les égaux des autres puissances. C'est bien, bien, bien dommage. Mais nous nous battrons pour que le droit de veto soit dénié à tous ou reconnu à tous. Il n'y a pas de reconnaissance à géométrie variable. Bon, mais c'est déjà un combat qui avance. On peut dire que ce n'est que justice que l'Afrique qui connaît les pires problèmes aujourd'hui, qui connaît les pires interventions de toutes les puissances étrangères et qui connaît des problèmes de paix et de sécurité, puisse être présent au Conseil de sécurité. Nous sommes un des plus grands continents du monde avec une population d'avenir et les autres décident à notre place. Il est aujourd'hui grand temps que les grandes puissances comprennent le rôle que l'Afrique peut jouer dans le monde, même si l'Afrique aurait pu avoir encore plus de postes dans le Conseil de sécurité, mais c'est déjà une première victoire que nous apprécions à sa juste valeur.
Abderrahmane Koulamallah, ministre tchadien des Affaires étrangères. Propos recueillis par Magali Lagrange. En RDC, 37 personnes ont été condamnées à mort. Décision de la justice militaire lors du procès de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier. Ce jour-là, un commando armé avait visé la résidence de l'homme politique Vital Kamerhe avant de se rendre au palais de la Nation, le siège du pouvoir. Parmi les condamnés, il y a aussi un Britannique, un Canadien et un Belge. Certains ont fait appel. 14 autres ont été acquittés. Les premières élections au Soudan du Sud n'auront pas lieu avant 2026. Le scrutin a été reporté hier par le président Salva Kiir. Il était prévu initialement pour décembre 2024. Ce devait être donc le premier dans ce tout jeune pays, le plus jeune du monde. La présidence dit avoir besoin de plus de temps. Tous les détails et toute l'actualité africaine sont à retrouver sur notre site rfi.fr. 8h06 à en temps universel, 17h06 à Tokyo, au Japon, le parti libéral-démocrate cherche son nouveau chef qui devrait succéder à Fumio Kishida, le premier ministre. Il a renoncé à un nouveau mandat à la tête du parti, par conséquent il va aussi quitter ses fonctions à la tête de l'État. Démission suite à des scandales politico-financiers et en raison de la baisse du pouvoir d'achat des ménages japonais. Son parti, qui domine la vie politique du pays depuis 1955, doit choisir entre 9 candidats. C'est un record. Tous ont participé à un débat télévisé. Les conservateurs sont tentés par le changement, mais ce débat a montré qu'il reste divisé entre sa vieille garde et ses réformistes. À Tokyo, correspondance de Frédéric Charles.
Le candidat le plus jeune et le plus populaire du parti conservateur est Shinjiro Koizumi, 43 ans. C'est le fils de Junichiro Koizumi, un ancien chef du gouvernement japonais charismatique, qui proclama qu'il allait mettre à bas son propre parti. Tel père, tel fils, Shinjiro Koizumi veut changer le Japon, déréglementer l'économie. Le parti conservateur pourrait aussi porter au pouvoir pour la première fois une femme, en l'occurrence Sanae Takaichi, 63 ans. Elle représente l'aile la plus conservatrice et nationaliste du parti. Le parlement japonais ne compte que 11% de femmes. Le parti conservateur est au creux de la vague. Les Japonais marquent leur préférence pour Shinjiro Koizumi. Il incarnerait la rupture avec un système politique qui a perdu la confiance de l'opinion publique. Près de la moitié des Japonais ne votent plus. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
En France, des manifestations prévues aujourd'hui contre les violences sexuelles et sexistes et en soutien à Gisèle Pelicot. Son ex-mari est actuellement jugé à Avignon pour l'avoir droguée et pour avoir recruté des dizaines d'inconnus pour violer sa femme, son ex-épouse inconsciente, pendant près de 10 ans. La France, avec la suite des consultations de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre nommé la semaine dernière par le président Emmanuel Macron. Il doit former un gouvernement, mais la tâche est difficile dans une Assemblée nationale éclatée en 3 blocs, sans majorité absolue et où les menaces de censure se sont multipliées. Toujours en France, les athlètes et para-athlètes qui ont marqué les Jeux vont s'accorder un dernier bain de foule avec la parade des champions, un défilé de 2 heures le long des Champs-Élysées devant des dizaines de milliers de personnes cet après-midi pour saluer donc les médaillés et ceux qui ont été un peu plus malheureux. Les 70 000 places gratuites proposées ont toutes été réservées en moins d'une heure. Les temps forts de cette journée avec Sylvie Coffi.
Pour les organisateurs, c'est la 5e et dernière cérémonie des Jeux, la parade des champions. C'est une fête XXL ouverte à tous pour que tous les Français puissent voir encore une fois ceux et celles qui les ont fait rêver et même pleurer. Tous ces médaillés de bronze, d'argent et d'or avec la légende du judo Teddy Riner, les frères Lebrun et leur discipline de prédilection, le ping-pong, ou encore l'incroyable nageur Léon Marchand avec ses 5 médailles d'or et de bronze. Tous vont défiler avec les Paralympiques, aux côtés de la reine Aurélie Aubert, qui nous a fait découvrir la boccia, ou encore Charles Nauquès, champion de badminton du haut de son 1m40. Dire aussi un grand merci à ces 45 000 volontaires et à tous ces acteurs de l'ombre de ces Jeux de Paris. Une parade unique qui va démarrer au bas des Champs-Élysées pour remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe où Emmanuel Macron les attend pour les décorer. Et avant le concert du soir, on nous promet encore des surprises.
Sylvie Coffi, et on suivra bien sûr cette parade sur RFI. On y reviendra notamment avec l'invité de RFI Midi, le médaillé d'or en BMX, Joris Daudet. Il sera bien sûr dans ce défilé des athlètes et para-athlètes. RFI Midi à partir de midi, temps universel. Pour l'heure, bientôt 10h10 à Paris, 8h10 en temps universel. À suivre sur RFI, le débat africain avec Namouri Dosso. L'actualité internationale revient dans 50 minutes.